France Musique. Les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Vincent Koch, le pianiste du trio Wanderer.
Jean-Marc Félix Varjabédian, violoniste du trio.
Raphaël Pidou, violoncelliste du trio Wanderer.
Chers amis du trio Wanderer, après ces trois jours où vous avez été cuisinés individuellement, on se retrouve tous ensemble au studio 761 de la Maison de la Radio. Alors, j'ai envie de vous poser d'abord quelques questions assez basiques, parce que tout le monde se demande, voilà, un trio qui joue depuis 34 ans, alors Jean-Marc est arrivé un peu plus tard, mais c'est donc des tournées, des dizaines et des dizaines de concerts, enregistrer ensemble, vivre ensemble, voyager ensemble, les mêmes hôtels, les mêmes restaurants. Comment ça se passe dans la logistique, on va dire, habituelle, normale, de ce trio Wanderer, Vincent?
C'est assez simple, il n'y a pas de règle. C'est, moi, ce que je dis toujours, notre règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On essaie, pour des questions très pratiques, de voyager ensemble, parce que pour les organisateurs, c'est plus simple d'aller chercher les gens. On aime bien parler des restaurants, dîner ensemble après les concerts, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire pour un artiste soliste, c'est de se retrouver après un concert tout seul, soit dans un restaurant ou pire, à l'hôtel avec son plateau repas. Il n'y a pas de règle. Raphaël, par exemple, adore rouler la nuit.
Alors, vous préférez voyager en voiture ?
Mais c'est terrible parce qu'il pense à ma place, en fait. Alors, effectivement, moi, j'adore être seul sur le macadam.
Avec la radio ou...
Non, j'écoute très peu de musique. Ou alors...
Ça pourrait être les informations ou...
Non, FIP. Voilà, FIP. C'est une chaîne de la maison.
Une des meilleures. Donc vous rentrez chez vous après les concerts?
Oui, quand c'est possible, pour profiter de
c'est-à-dire
de
jusqu'à 400 km ou...
Ah, j'ai fait plus que ça, là, cet été. Mais l'été, c'est particulier, parce que, comme je dis souvent, on n'est pas en vacances, nous, on travaille. Et quand il faut se taper les embouteillages des vacanciers, là, je ne peux pas. Donc je roule la nuit, c'est bien mieux.
Et vous, Jean-Marc, vous avez des souvenirs de voyages transatlantiques ou transpacifiques?
Oui, j'ai des bons souvenirs, et j'ai des souvenirs rigolos de, par exemple, j'adore vraiment le Japon, et c'est des moments privilégiés aussi quand on va faire notre tournée en général au mois de juin au Japon. C'est 15 jours qui me reposent, moi, parce que la culture japonaise, la gentillesse des gens, le civisme des Japonais, ça me fait un...
L'organisation.
Oui, aussi, mais j'ai rien contre l'organisation, au contraire. Et ça me fait un bien fou. Et voilà, donc tous ces voyages ne sont jamais pénibles. Ils peuvent être stressants parfois avec ces histoires d'avions qui deviennent compliquées. On a eu des petites aventures de passeports oubliés ou de...
De valises qui ne suivent pas.
Ça, c'est ma spécialité. Il faut qu'il y ait un Pierre Richard dans un groupe, c'est toujours pour moi. Quand il y a une chambre d'hôtel,
François Pignon désigné.
Quand il y a une chambre d'hôtel pourrie, elle est pour moi. Quand il y a une valise oubliée, elle est pour moi.
On
a
eu une fois pas de crise de jalousie par rapport à vos collègues.
Non, j'ai accepté le destin tel qu'il se présente. Et j'ai souvenir d'une petite tournée en Allemagne de 4-5 jours. La valise m'a suivi d'un jour avec un jour de retard. Elle est arrivée dans tous les hôtels, mais avec un jour de retard. Pendant ce temps-là, je m'étais constitué une nouvelle valise. Et à la fin, je suis revenu avec deux valises.
Est-ce que chacun de vous a ses petites marottes? Est-ce que...
Il y a juste Jean-Marc qui veut absolument, sinon il fait un caprice, une bière à l'issue du concert.
Voilà. Mais ça, c'est après.
Avant, on n'a aucune...
J'avoue que j'ai eu un grand moment de bonheur à la Philharmonie de Cologne. Et on a même pris une jolie photo qui a eu le plus gros succès sur Facebook. C'est comme quoi... où, en sortant de scène, mais vraiment en sortant de scène, encore avec les instruments et tout, ils nous ont servi trois bières juste dans l'arrière-scène, comme ça. C'est une tradition de la Philharmonie de Cologne.
Oui,
donc ça, c'était assez agréable.
Les Allemands sont très organisés. Et les philharmonies en Allemagne, par exemple, et d'ailleurs dans le reste de l'Europe, en Hollande aussi, il y a un restaurant pour les artistes, pour les musiciens de l'orchestre, etc. C'est extrêmement convivial. Il y a des menus, et midi et soir, hein, c'est, et puis on peut boire. Je crois qu'à la Philharmonie de Paris, il y a éventuellement un distributeur de café et de chocolat, mais je comprends pas pourquoi on a oublié, en fait, que les musiciens ont besoin de se restaurer, d'être ensemble et de pouvoir juste prendre plaisir, surtout le jour d'un concert, autour de mai du pays. Enfin, en Allemagne, on mange très très bien dans ces endroits-là, et je le signale au passage.
Faut pas. Alors, je défends un peu la France, parce qu'au moins en France, dans beaucoup d'endroits, on peut manger après le concert. Tu vas en Hollande, après 21h, trouver un restaurant aux Pays-Bas, c'est quand même presque chose impossible. Et une de nos marottes aussi, c'est que nous, on dîne vraiment après le concert. C'est comme au rugby, à la troisième mi-temps, quoi. C'est un plaisir, parce qu'après un concert, il y a la montée de l'adrénaline du concert, on a besoin de se détendre. Et c'est vrai que je parlais pour les solistes, c'est encore pire, se retrouver après un concert, chacun retourne dans sa chambre, on voit personne. Enfin, je trouve ça.
Alors moi, j'ai des souvenirs épouvantables. Voilà. En Allemagne.
Voilà, en Allemagne, voilà.
À Hanovre ou à 9h du soir, et on se contente du McDo.
Écoutez, on a quand même une belle vie, parce que là on est en train de critiquer tout ça, mais on a quand même une vie extrêmement riche, pleine, et surtout qu'on est notre propre chef, on est notre propre capitaine. Et ça, oui, je crois que ça se négocie pas, ça c'est un bonheur total.
Et c'est important. Je pense dans un groupe de musique de chambre, ou comme dans n'importe quel groupe humain, c'est de garder de l'air. Ça, c'est pas de rentrer en religion, quoi. C'est-à-dire, c'est donc chacun, effectivement, quand on nous dit on vous a mis à côté dans l'avion, on dit surtout pas.
En plus de 30 ans maintenant de carrière, comment vous le voyez, ce public évoluer ?
Alors, moi, ce que j'ai noté sur le public asiatique et qui m'a fait extrêmement plaisir, notamment en Corée, c'est que c'est un public jeune. J'ai le souvenir d'un concert à Séoul où la moyenne d'âge devait être de 25-30 ans, ce qui semble complètement inconcevable pour nous en Europe, et où il y avait une queue à la sortie du concert absolument monstrueuse pour signer des autographes. Ça, c'est vraiment c'est revigorant, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression en Europe que le public vieillit de plus en plus, mais en fait, il se renouvelle.
Il se renouvelle, mais à partir d'un certain âge.
C'est ça. Donc, voilà, sur le public asiatique, je pense qu'il y a il y aura un exemple à prendre, mais comment intéresser nos jeunes européens à la musique classique, les motiver pour venir au concert à l'âge de 25-30 ans plutôt qu'une fois qu'ils sont à la retraite, et je sais pas. Ça, j'ai pas de réponse par rapport à ça.
Oui, je pense que effectivement, il y a quand même une grosse responsabilité des organisateurs de concerts. L'artiste a beau sourire sur scène, c'est pas pour ça qu'il va attirer plus de jeunes. Je pense que c'est de dire aux jeunes, mais venez jusque là, puis vous verrez. Venez voir quelque chose, et puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas.
Oui. Je sais pas, enfin, j'ai l'impression de me souvenir, moi, quand j'étais étudiant au conservatoire, qu'il y avait plein de places gratuites aussi pour les étudiants.
À l'opéra.
Oui.
Et vous allez pour 10 francs.
C'est comme le fait, moi, je trouve très curieux que des étudiants ne connaissent plus l'histoire de l'interprétation. Oh. Et ça, c'est une chose qui me frappe. Moi, j'ai parlé à un violoniste de ma classe. Je me souviens, j'ai parlé de Joseph Souk. Je ne sais même pas qui c'était. Je veux dire, c'est des gens qui sont en master. Je veux dire, et moi, quand j'étais jeune, j'écoutais Schnabel, j'écoutais Fischer, j'écoutais, enfin, et puis les Richter.
Mais parce que nos maîtres nous.
Et tout est accessible. Oui. Et voilà. Et tout est accessible maintenant avec YouTube.
Raphaël.
Il n'y a pas que les jeunes qui sont responsables. Justement, c'est eux, ils n'y peuvent rien. Il y a un éditeur de musique qui édite la musique de Shostakovich, qui vient de faire une réédition du concerto de Shostakovich sans les coups d'archet et les indications et les doigtés de Rostropovitch. Et je me dis là,
si
c'est pas une révision de l'histoire, c'est quoi ? Et ça en arrange certains qui ne veulent plus faire comme faisait Rostro, alors que, en fait, a priori, Shostakovich était d'accord avec Rostro.
Mais est-ce que vous, par exemple, alors, un violoniste, un violoncelliste, un pianiste, vous parlez aussi à vos étudiants, puisque chacun de vous enseigne, d'orchestre, de quatuor à cordes, d'instruments à vent, de danse,
de baroque,
de musique baroque, de faire entendre Beethoven par Arnoncourt et pas par Karajan.
Exactement. Et on a, en fait, on se rend pas compte, mais on a une énorme responsabilité et une influence. Je pense qu'on est le premier référent au conservatoire, c'est le prof.
Jean-Marc, justement, les violonistes, est-ce qu'ils sont encore très très attachés au violon d'il y a 30 ans ou 40 ans?
Non, justement. Vous... Oui. Non, justement, et c'est pour ça, pratiquement à chaque cours, quand on parle d'une œuvre, je cite des interprétations de référence qu'ils ne connaissent pas forcément, et je leur dis, tout est accessible. Ce que je voulais dire pour répondre à la question de tout à l'heure, sur ce que disait Vincent, sur une espèce de paresse, en fait, à découvrir la culture de l'interprétation, je pense que, on le dit toujours, hein, trop d'informations tue l'information. Et trop de possibilités, en fait, tue l'envie. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais élève au CNSM, on était tout jeune avec Philippe Graffin, puisqu'on est rentré ensemble en préparatoire. On avait 12, 13 ans. Première chose qu'on faisait en sortant des cours, c'était d'aller jouer au Flipper au Café de l'Europe, le fameux Café de l'Europe qui a réuni tous les musiciens. De notre génération. Et puis bon, au bout d'un moment, on descendait à la FNAC Saint-Lazare et il y avait des cabines d'écoute à l'époque. Et on allait choisir des interprétations de concertos et Philippe, qui était mon aîné d'un an, qui avait un peu plus de maturité, me faisait découvrir des choses. Et on passait des heures, en fait, à écouter des interprétations de grands violonistes à la FNAC Saint-Lazare gratuitement. C'était en fait notre seule possibilité, parce qu'un disque valait très cher à l'époque. Voilà. Maintenant, on a accès effectivement, grâce à des plateformes YouTube et autres, gratuitement à tout. Et en fait, je m'aperçois effectivement que les jeunes n'ont pas l'idée d'aller chercher ces grands interprètes dont je leur parle, mais ils prennent en fait la première version qu'ils trouvent. Je pense que c'est pas de leur faute, c'est qu'ils sont victimes d'une espèce d'abondance. Moi, quand j'étais étudiant au conservatoire, mes dieux, c'était Heifetz et Oistrakh, mais je les ai jamais vus jouer. Il a fallu que j'attende d'aller à New York, à Juilliard School, pour avoir accès aux documents vidéo de la New York Library. Et c'est là où, tout d'un coup, j'ai vu Heifetz en chair et en os. J'ai vu Oistrakh et j'étais bien surpris parce que moi, je m'étais fait un imaginaire sur ce que mes profs me racontaient de ce qu'ils avaient vu en concert. Mais c'était leur interprétation de la chose. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, mais Heifetz, il n'est pas si figé que ça. Il est expressif. Oistrakh, c'est pas un poteau planté dans la scène. Il bouge, il est souple. Donc, j'avais une fausse image. Et ça, j'ai pu le voir et ça m'a fait beaucoup de bien.
J'aimerais qu'on parle maintenant de vos partenaires occasionnels. Et notamment, parce qu'il a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup avec vous, il a enregistré aussi avec vous, c'est Christophe Goguet, altiste qui est au Philharmonique et qui est bien connu des musiciens, parce que c'est un chambriste hors pair et toujours avide de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Comment s'est fait le compagnonnage? Comment ça s'est... Greffé, comment Christophe est arrivé dans l'équipe?
Il y a tellement longtemps,
qu'on joue avec Christophe. Christophe, c'est quelqu'un qui met le bonheur sur scène. C'est parce qu'il est toujours content de jouer. Et je sais, pas le dernier disque, mais celui qu'on avait fait avant, on enregistrait à Berlin avec quelqu'un qui s'appelle Martin Sauer, qui est un grand directeur artistique. Et quand il a vu arriver Christophe, il était en joie parce que il met un bonheur de jouer, d'être là.
C'est-à-dire que vous faites la gueule et lui, il sourit.
Je sais pas, nous, on est comme on est, on se connaît tellement. Mais oui, peut-être. Et il n'y a jamais un mot désagréable. C'est quelqu'un, on se sent parfaitement en confiance. C'est un musicien formidable. Il est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, donc il pose toujours des questions pour mieux faire. Enfin, il nous demande si ça va, tout ça. Non, c'est quelqu'un. Honnêtement, c'est toujours un vrai bonheur de jouer avec lui. Et c'est vrai. Alors, on est d'autres personnes avec qui on a énormément de plaisir à jouer. Mais bon, il s'est créé un lien au fil des années. On a fait beaucoup d'enregistrements et on aime bien être fidèle aussi, simplement.
Mais Raphaël, par exemple, l'alto, tout d'un coup, il est à votre gauche, c'est plus le piano qui est derrière ou le violon qui est en face, c'est quand même une voix assez grave dans un ensemble. Comment vous vous adaptez ? Ou est-ce que vous attendez de lui qu'il s'adapte ? Est-ce que vous avez des demandes particulières ?
Non, je pense que tout ça, ça se fait naturellement. En fait, c'est un peu de l'alchimie, comment dire. Alors, il y a évidemment, de par l'écriture, un gros travail d'homogénéité et de pas de deux avec le violon. Forcément.
Vous faites un travail de trio à cordes, j'imagine.
Exactement. Alors, et puis il y a aussi la connexion avec la tessiture de l'instrument, avec le violoncelle qui se fait tout seul avec l'alto. Bon, il faut dire, comme le disait Vincent, que Christophe, en fait, comme on dit, il se la joue pas, mais c'est un grand musicien. Voilà, et c'est ça qu'on aime avec lui. Et voilà, et puis. Les gens simples dans ce métier, c'est peut-être rare, mais il faut vraiment en profiter. En fait,
les musiciens sont des gens compliqués.
Ça peut arriver, oui. On en a rencontré. Mais c'est vrai que les gens qui nous correspondent le mieux, ce sont en général des gens assez simples. La rencontre à Christophe, elle s'est faite, je crois, parce qu'en fait, moi, j'avais fait le stage des arcs en même temps que lui, en tant qu'élève. Et on se connaissait depuis très très longtemps avec Christophe. À l'époque, il jouait dans un quatuor à cordes. Et quand je suis arrivé dans le trio, je pense que c'est moi qui ai proposé Christophe pour un concert. Et ça a fonctionné très bien tout de suite parce que mes deux collègues ont bien vu à qui on avait affaire. Très récemment, là, à Hambourg, on a joué avec Nobuko Imai, qui est une star de l'alto, qui donc avait 78 ans, il y a encore 15 jours qu'on a joué avec elle à Hambourg. Et on a vu arriver cette dame, effectivement, qui est un peu pétrie d'arthrose et déformante, même au niveau de la main gauche. Donc j'étais un petit peu angoissé au moment où elle a pris son alto. Je me suis dit, qu'est-ce qui va sortir ? Et là, on a entendu un son absolument merveilleux, une justesse absolument incroyable. Et cette femme, qui a fait une énorme carrière d'altiste, est d'une simplicité hallucinante. Donc on a fait la répétition, on a joué la truite.
Qu'est-ce que vous avez joué ?
La truite de Schubert. Il n'y a rien eu à répéter, pratiquement. On a rejoué quelques passages pour vraiment se conforter. Mais tout était tellement évident, même dans son attitude, souriante, concentrée, sans faire de chichi ni cinéma. Ça s'est passé de la manière la plus
naturelle.
C'était la première fois, oui.
Avec quels autres altistes
on a joué? Pas mal. On a joué avec Antoine Tamesti, on a joué avec Rizanov.
Est-ce que Vladimir Mendelssohn, qui nous a quittés récemment...
Oui, on a joué, tout à fait.
Très grand souvenir.
Très grand souvenir.
C'était
à Quatuor de Forêt, je crois.
À Cork.
Dans le festival West Cork de Francis Humphrey.
Voilà. Ouais. Et il était tellement rigolo, adorable, et en même temps un talent incroyable. Et puis, notre cher... altiste aussi, avec qui on a joué cet été.
Lise Berthaud, bien sûr.
Qui représente la nouvelle génération. Et pareil, qui est d'une simplicité, et en même temps un tempérament absolument incroyable. Donc, voilà, les musiciens avec lesquels on aime jouer, il n'y a pas que les altistes, on joue souvent avec Michel Moragues.
Pascal, la flûte, c'est compliqué. Il n'y a pas tellement de répertoire.
Pascal Moragues à la clarinette, c'est pareil, c'est toujours un bonheur de jouer avec lui.
Bon, faites le Messian.
Messian, oui. Une demi-heure, on a fait, qui est une très belle pièce, la même formation que le Messian.
vous arrive de ne pas avoir d'atome crochu avec tel ou tel musicien, ou est-ce que vous sentez tout simplement que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ?
Quelquefois, c'est toujours l'inventivité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme les autres, alors il faut trouver quelque chose. Alors, trouvons quelque chose. Alors, par exemple, un ralenti qui n'est pas écrit, une nuance qui n'existe pas. Et alors, on a l'impression quelquefois que, mais je vois ça avec mes propres élèves également, hein, quelquefois c'est une petite bataille lancée, qu'il faut de la nouveauté. Alors, on pourrait se poser la question, effectivement, qu'est-ce qu'on peut amener dans Dvorak, dans Tchaïkovski, dans Mendelssohn, dans La Truite, dans l'Archiduc de Beethoven, de nouveau? Bah, moi, je dis déjà, essayons de se contenter de faire le texte, quoi, et de jouer au mieux, et je pense que là, ça suffit. Alors, voilà, est-ce que l'interprète doit se mettre en valeur, ou est-ce que c'est le compositeur qu'on met en valeur? C'est la grande question.
Mais si je voulais vous titiller un peu, au risque de vous provoquer, ou de me faire l'avocat du diable, vous êtes des interprètes, donc vous parlez de l'Archiduc, Allegro Moderato. Moi, j'entends souvent cet Allegro Moderato joué de manière martiale, quasiment à la brève, alors que c'est marqué Moderato. Donc, tout est question d'interprétation du Moderato. Certes, Allegro, mais Moderato.
Et c'est vrai que c'est plus difficile de jouer un petit peu plus lent, parce que il faut prendre soin du son et de la... Voilà, non, mais c'est vrai. Et moi, je vois, même avec la carrière du trio, récemment, un de vos collègues nous avait convoqués...
Un de mes collègues pianistes ?
Non, je ne me souviens plus très bien.
Ah, c'est plus un collègue.
Non, je parle à la radio. Donc, et m'a fait écouter un enregistrement à l'aveugle. Donc j'écoute, c'était plus vite que ce qu'on jouait maintenant. Et en fait, c'était nous, mais très jeunes, on avait 3 ans d'existence. Mais c'était bien, stylistiquement, je trouvais ça pas mal, franchement, mais c'était beaucoup plus vite que ce qu'on faisait maintenant. Et je dirais que, voilà, peut-être que le moderato, on le prend plus en considération quand on prend de l'âge, ou qu'on atteint cette maturité soi-disant. Bon. Et c'est vrai que quand on est au concertant, on a envie de jouer vite.
Et de briller ?
Oui, certainement, et puis parce que ça nous est plus facile de jouer vite, mais justement de jouer tendre, de jouer avec une profondeur, de prendre son temps, d'articuler. Au début, ça nous paraît ridicule, alors qu'en fait, je pense que sur scène, c'est ce qui sert aussi à projeter et à avoir de l'attention.
C'est vous qui nous parliez du parlando, oui, réclamé par Brian Eno. Mmh. C'est un petit peu ça.
Ben, complètement, mais comme je vous dis, moi je comprenais rien. Je me disais, tiens, il est un peu fou là, ça veut dire quoi ? Et en fait, c'est un peu la clé, mais ça vient pas tout de suite. C'est ça qui est bon, c'est que ce sont des carrières longues.
Un extrait de l'Andante Cantabile du trio opus 97 à l'Archiduc de Beethoven, interprété par le trio Wanderer, qu'on retrouvera avec les 3 membres autour de la table demain pour le dernier épisode des Grands Entretiens. À la prise de son, Pierre Monteil, au mixage, Cédric Chatelus. L'attaché d'émission, c'est Marie-Christine Ferdinand et le réalisateur Lionel Quentin. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.